Le jeudi 2 avril, à la veille du lancement de sa saison 2026, la Cité des Saveurs et Senteurs a eu le plaisir de convier le public à une conférence de presse au couvent des Cordeliers à Fort-Calquier. Nichée sur les pentes lumineuses de la montagne de Lure, la Cité des Saveurs et des Senteurs de Fort-Calquier respire comme un jardin vivant, ouvert entre ciel et terre. Là, les herbes murmurent leurs secrets anciens, les fleurs distillent leur mémoire et chaque parfum devient une histoire à écouter. En ce lieu singulier, l'Université européenne des saveurs et des senteurs et le musée Artemisia ne cohabitent pas simplement. Ils dialoguent, se répondent, le savoir y prend racine dans la terre, l'art y éclot comme une évidence et les sens deviennent des chemins de connaissance. Ici, les plantes ne sont plus seulement regardées, elles sont ressenties, goûtées, comprises. La cité ne se contente pas d'exister, elle invente de nouvelles manières d'habiter le monde. Elle ne se contente pas d'exposer, elle expérimente, elle ose, elle transforme. Elle ne se contente pas d'enseigner, elle transmet une vision. En réunissant science et poésie, en invitant l'art à converser avec le vivant, en faisant des jardiniers, des herboristes et des passeurs de savoir les voies d'un même élan, elle dépasse sa propre forme. Alors, la cité devient inévitable. Non pas comme un lieu que l'on visite, tout simplement, mais comme une expérience que l'on traverse. Un manifeste vivant où les saveurs éveillent la mémoire et où les senteurs dessinent l'avenir. Laurence Chabert, vous êtes ethnobotaniste et vous êtes à l'origine de tout ce qu'il y a dans le musée. Racontez-nous cette formidable aventure.
Je suis dans la région, le pays de Fort-Calquier, depuis passablement d'années. Et mon job, c'est d'observer l'évolution de notre relation en tant qu'humain avec le monde végétal. J'ai beaucoup travaillé avec Pierre Liotagui, qui était ethnobotaniste ici, qui a été mon mentor. Quand il y a eu ce projet de musée, le directeur de l'époque est venu me chercher en me disant « Bon voilà, j'aimerais qu'on parle des plantes du pays de Fort-Calquier. Comment tu vois ça ?» Donc voilà, j'ai fait un certain nombre de propositions, certaines ont été retenues. Et ensuite, j'ai écrit des textes et donné aussi pas mal de photos qui sont dans ce musée. L'idée, c'est de montrer que ici, nous avons une biodiversité assez exceptionnelle, puisqu'on part de l'étage vraiment méditerranéen pour monter au sommet de la montagne de Lure, qui est à 1826 mètres, et où on est dans ce qu'on appelle l'étage alpin. Donc, un très grand gradient altitudinal, et donc une flore qui est très diversifiée. Évidemment, on va trouver la lavande plus en bas ou dans les collines, et puis là-haut, on va trouver des espèces beaucoup plus rares. C'est cette idée, par exemple, du graphique que vous avez là-bas qui montre un peu ce qu'on va voir comme plante quand on monte dans la montagne de Lure sur l'Adret, c'est-à-dire le côté sud, et une flore totalement différente quand on est sur l'Ubac, côté nord. Et ensuite, y a toute une histoire des villages qui sont au pied de cette montagne et qui ont les premières attestations datent du XVIe siècle où on dit que des colporteurs ont récolté des plantes et sont allés les colporter, donc les vendre plus loin. Donc les villages comme Saint-Étienne-les-Orgues, Lardier, sont des villages où des familles ont vraiment fait fortune avec les plantes de la montagne. Et on voit encore des portes de bois dans les maisons des anciens herboristes avec des sculptures de fleurs qui désignent des maisons de familles qui se sont spécialisées dans la récolte des plantes et aussi dans cette colportage. Donc, il y a une historienne qui s'est installée à Saint-Étienne-les-Orgues, qui a fait des recherches dans les archives, qui s'appelle Gisèle Roche-Galopini, et qui a montré que, en fait, dans ces familles, il y avait les hommes qui partaient dans la montagne, ou dans la montagne, qui récoltaient des plantes, et certains membres de la famille, ensuite, allaient les colporter. Évidemment, jusqu'à Marseille, dans le grand marché de Beaucaire, mais aussi beaucoup plus loin, vers Bordeaux, vers Besançon, et même jusqu'à Constantinople. On a retrouvé des traces. J'ai mis ici, dans le musée, un passeport qui montre comment un herboriste colporteur de Saint-Étienne-les-Orgues est allé vendre dans le Tarn. Parce que quand on passait la montagne de Lure, on partait de la Provence et à la Crète, on arrivait en Dauphiné et il fallait un passeport. Et c'est en travaillant dans les archives qu'on a retrouvé ces traces. Voilà, donc on a quelques preuves vraiment du trajet, des différents trajets. Et puis au fil du temps, des familles se sont spécialisées en récolter des plantes pour les vendre qui à l'époque étaient les apothicaires, qui sont ensuite devenus les pharmaciens. Ces plantes colportées, certaines, ont fait l'objet de préparations spécifiques, par exemple le vermifuge de la montagne de Lure. Voilà, il y avait tout... Bon, on retrouve des traces d'étiquettes, entre guillemets, de médicaments qui ont été fabriqués. À l'époque, on appelait ça des drogues. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des droguistes. Des colporteurs droguistes. Voilà, donc du 16e à la fin du 19e, il y a eu une activité très intense autour des plantes.
Il y a eu aussi une grande activité au niveau de la distillerie aussi, non ?
Alors oui, là, évidemment, on est dans le pays des plantes aromatiques. Donc il y a différentes distilleries qui se sont installées, entre autres la distillerie de Lure, qui est une distillerie d'alcool, mais qui était basée sur la gentiane, la grande gentiane, gentiana lutea de la montagne de Lure, dont on récolte la racine, et puis d'autres espèces aux alentours. Et après, il y a eu aussi la distillerie des plantes aromatiques, pour faire l'huile essentielle, et qui est une des grandes activités de la région. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les activités industrielles ou artisanales autour des plantes sont la première filière économique du département des Alpes-de-Haute-Provence. Et donc, ce n'est pas seulement l'image, c'est une réalité tangible, même si, évidemment, toutes les plantes travaillées ne viennent pas de la région. Il faut être...
Donc, ça veut dire que le savoir-faire s'est transmis, se transmet encore, et que ces choses-là sont toujours en activité.
Oui, sous différentes formes. Il y a l'industrie comme l'Occitane, mais il y a aussi énormément de petites entreprises artisanales qui transforment les plantes pour l'huile essentielle pour la cuisine ou sous forme de sirop, de savon. Il y a beaucoup de déclinaisons. Mais quand même, c'est la plante qui est à la fois l'image et qui est porteuse de toute cette activité. Après, ici, on est dans une zone où il y a encore des cueilleuses et des cueilleurs professionnels qui sont plutôt des gens, on pourrait dire des néo-ruraux, qui sont venus, bon comme moi, dans les Landes 68, hein, j'ai quitté Paris après 68, et qui cueillent des plantes sauvages ou qui en cultivent, qui en distillent, qui font de l'herboristerie, c'est-à-dire des plantes sèches, et proposent des tisanes. Et beaucoup aussi de transformation en gémothérapie, en teinture mère. Voilà. Il y a beaucoup de déclinaisons possibles. Moi, je suis plutôt dans une phase, depuis pas mal d'années, de transmission autour des usages des plantes, à la fois sur la partie historique, sur la partie botanique, mais aussi sur la phytothérapie.
Est-ce que vous avez pu constater un changement, même minime, hein, au niveau du climat, depuis que vous êtes installé dans la région et depuis que vous occupez des plantes ?
Alors, au niveau du climat, je dirais pas, parce qu'il y a des bonnes années, des moins bonnes années, des plus pluvieuses et moins... C'est pas tellement ça. Moi, ce que j'ai observé, j'ai pas mal travaillé pour les conservatoires botaniques, donc j'ai un regard assez aiguisé sur les plantes elles-mêmes, d'un point de vue botanique, et entre autres sur des espèces plus rares. Ce dont on peut se rendre compte, à l'échelle de ma génération, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a des plantes, non pas qu'elles disparaissent, mais elles régressent. Elles régressent, on pourrait dire, en quantité, c'est-à-dire que dans un même endroit, une plante qui était très, très présente, on appelle ça une station, hein, quand on est producteur, cette plante, la quantité s'est amoindrie. Or, ça pose un très gros problème parce que quand il y a un nombre d'individus qui est réduit, l'échange génétique, le brassage génétique ne se fait plus. Et c'est comme ça qu'on a vraiment une régression des populations. Ça, je l'ai observé sur un bon nombre d'espèces. C'est toujours extrêmement multifactoriel. Il y a le fait que certaines plantes étaient cueillies très régulièrement. Et le fait de cueillir, c'est un peu comme quand on coupe le foin. Ça favorise une repousse. Si c'est bien fait au bon moment, ça favorise une repousse. Les plantes qui ne sont plus cueillies, soit par la dent des brebis, soit par la faucille du cueilleur, elles ont tendance à se laisser embroussailler. Par exemple, la lavande, elle aime pas la concurrence des autres herbes. Hein, et quand il y a des brebis qui passent dans la colline, ben, elles mangent les graminées autour de la lavande et la lavande peut prospérer. Or, des troupeaux, il y en a beaucoup moins. C'est plutôt quelques très gros troupeaux qui passent. Et donc, heureusement qu'ils sont encore là, mais c'est pas du tout la même chose que tous les petits troupeaux qu'il y avait. Après, il y a une question un peu d'échelle. C'est-à-dire que quand on regarde les cartes postales du début du XXe siècle, on voit ici des pans de collines et de montagnes qui sont blancs. Parce qu'il y avait le charbon de bois, on cuisinait au feu de bois, il y avait la distillation au bois, il y avait des petits troupeaux partout, et donc une espèce de surpâturage. Et ça, c'est parce que ces activités-là ont été réduites que la végétation a pu reprendre le dessus. Il y a des espèces de cycles comme ça. Moi, l'aspect climatique, je ne le vois pas très nettement. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, des années successives de sécheresse, mais ça a existé autrefois aussi, hein, des années avec beaucoup de neige, des années avec moins. Mais par contre, il y a, comment on peut dire, une dégradation des milieux. Hein, ça, c'est quand même très, très net. La pollution de l'air, même ici en Provence, on a l'impression que l'air est pur. Quand on regarde l'écart de pollution, on n'est pas si bien blasé que ça. Il y a le fait du bétonnage partout. Il y a le fait d'endroits où finalement on ne laisse pas s'exprimer la nature, même aux alentours des villages. Avant, on a changé de mode de vie. Donc c'est vraiment une multiplicité de facteurs qui fait qu'on peut observer certaines régressions d'espèces.
Donc le musée Artemisia a vraiment une importance pour, en tant que mémoire, présent aussi, mais futur.
Ouais, l'idée du musée, c'est montrer cette diversité existante et aussi, après, par des aspects plus pédagogiques, alerter sur le fait que notre mode de vie d'aujourd'hui ne prend pas en compte la nature, ne la laisse pas à elle-même. Quoi. Bon, sur la montagne de Lure, on s'est beaucoup bagarré ces dernières années parce qu'il y a des projets dont certains ont abouti de panneaux photovoltaïques. Et sous prétexte d'énergie, entre beaucoup de guillemets vertes, on a coupé des arbres pour mettre des panneaux. Et donc, on a tué une biodiversité existante, et c'est notre poumon aussi. S'il n'y a plus d'arbres, on ne respire plus. Et si on ne respire plus, nous les humains, on meurt. Donc, il faut aller beaucoup plus loin dans l'explication pour que le citoyen comprenne sa responsabilité.
Donc, bien évidemment, bon, là, vous êtes spécialiste dans la flore, mais qui dit flore dit faune, dit faune dit flore, avec ces changements climatiques, justement la faune aussi a évolué.
Alors la faune, on peut dire la grande faune, hein, c'est-à-dire les grands cervidés, ils sont assez présents dans les zones ici. Les sangliers, n'en parlons pas, ils font plus de dégâts, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont été croisés avec des cochons et qu'on les laisse proliférer. Mais la petite faune, ce qu'on appelle la microfaune, les insectes, les pollinisateurs, ça, ils ont beaucoup régressé, ça c'est certain. Les apiculteurs, par exemple, expliquent très bien que les fleurs sauvages, c'est pas qu'il n'y a pas de fleurs, il y a des fleurs. S'il a plu, enfin si les conditions sont réunies, il y a des fleurs. Mais ces fleurs, elles ne sont pas pollinisées, parce que les insectes ne sont plus là. Oui, on se tire une balle dans le pied depuis pas mal d'années, et maintenant on a du mal à marcher. Non, j'espère que ce musée continuera sur un des aspects qui était important, qui est justement cette sensibilisation à l'évolution de la flore sauvage, et puis aussi aux formations. Moi, j'ai travaillé sur un gros projet dans le cadre de l'USS, sur un gros projet d'études sur les plantes cueillies dans tout le massif alpin. Et on a été extrêmement étonnés, nous les chercheurs, de nous rendre compte que, bien sûr, il y a des plantes qui sont connues, qu'on ramasse, etc. C'est pas un problème, mais c'est la diversité des espèces. Parce que la pression des acheteurs, de toutes ces entreprises et tout ça, elle est énorme. Et donc, il y a plein de nouveaux qui sont arrivés, par exemple, après le Covid dans la région, qui veulent faire des cueillettes. Et bon, moi, ça me touche. J'ai été cueilleuse pendant 25 ans. Je trouve ça magnifique. Mais en même temps, notre responsabilité, c'est de les former, qu'ils comprennent qu'ils jouent un rôle et qu'ils peuvent avoir un rôle qui peut être extrêmement délétère sur la flore s'ils ne connaissent pas bien l'évolution de chaque espèce. et à quel moment ils font la récolter pour pérenniser cette ressource.
Concernant les formations de cueilleurs, où peut-on se former dans la région ?
Alors ici, dans la région, il y a le centre de formation agricole de Carmejane, qui est près de Digne, et qui a une antenne ici à Fort-Calquier, dans les locaux à côté du musée, où nous sommes plusieurs à enseigner pour des futurs producteurs de plantes, qui vont devenir des cueilleurs, et à leur apprendre comment poussent les plantes, à quel moment il faut les cueillir pour préserver cette ressource. C'est pas scier la branche sur laquelle on est assis. Pour ça, il faut une connaissance. Et donc, moi, en tant qu'ethnobotaniste, c'est mon rôle de partager mon expérience et aussi d'alerter sur le fait que la pression des acheteurs amène les cueilleurs, parfois, s'ils ne sont pas formés à accueillir plus que nécessaire. On a créé avec l'Association française des cueilleurs professionnels un guide de bonnes pratiques. Enfin, on essaye beaucoup de les encadrer pour que ceux qui veulent faire de leur métier vraiment parmi les plantes le fassent avec respect.
Alors, pour terminer, vous me disiez que vous étiez une passionnée des arbres.
Ben oui, j'ai été responsable de l'inventaire des arbres remarquables pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pendant plus de 12 ans. Par secteur, par exemple, le parc du Luberon a été le premier parc en France, parc naturel, qui a fait un inventaire de ces arbres. Et puis on a pu refaire une actualisation quelques années après. On voit évidemment que certains ont disparu, par la tronçonneuse principalement, ou par l'extension urbaine. Mais on voit aussi des témoins des temps anciens qui sont là et qui nous montrent que nous sommes bien petits par rapport à la notion du temps que les arbres nous enseignent.
Quelle est votre préférence peut-être dans la région ?
Il y en a beaucoup. Mais je connais souvent les endroits, les communes, par les arbres qui m'ont frappé. Quand on me dit... Tu vas à la Manon ? Ben oui, la Manon, c'est le géant de Provence, c'est un platane extraordinaire. Je commence toujours mes conférences par lui. C'est un platane qui n'est pas si vieux que ça, quoi. Il est peut-être 250-300 ans.
Un platane vit combien de temps à peu près ?
Ça dépend. En tout cas, lui, c'est un des plus anciens. Mmh. Et surtout, il a pas été taillé au garde-à-vous, comme tous les platanes qu'on voit. Donc c'est un platane qui recouvre 1250 mètres carrés. Et ben oui, il a un tronc, puis après, toute sa frondaison s'étale.
C'est énorme, 1250 mètres carrés.
Ben oui, tandis que les platanes au bord des routes, on leur coupe les bras, et donc ils poussent au garde-à-vous. C'est mon expression, je crois qu'elle est juste. Mais lui, il est le témoin qu'un platane libre, qui est dans des conditions intéressantes pour lui, c'est-à-dire suffisamment d'eau, etc., peut se développer d'une façon extraordinaire.
Jesús del Río, alors vous êtes photographe et que va pouvoir voir le public pour cette exposition ?
On a fait un travail de fond sur la Provence. Effectivement, on est à l'université, l'ancienne université, aujourd'hui c'est l'université d'AEC, plutôt, des senteurs, des saveurs. Et donc on a essayé de faire un travail synesthésique. C'est-à-dire qu'on puisse arriver à sentir un peu les champs, à sentir un peu l'essence de cette région.
Alors là, vous avez fait, je le découvre, parce que normalement, vous travaillez beaucoup le noir et blanc. Moi, c'est comme ça que je vous connais. Et là, je découvre un travail en couleur.
Et parce que ça, c'est dommage. Il y a parfois, les couleurs m'appellent. J'ai toujours trouvé le noir et blanc, mais il y a des régions comme celle-là où la couleur vraiment fait partie de l'ADN. Et parfois, ils travaillent avec des gens que j'arrive pas à photographier en noir et blanc tellement ils sont colorés. Ils pensent au peuple berbère, par exemple. Ça, on raterait quelque chose d'essentiel.
Ou Cuba, par exemple. C'est très compliqué de photographier ou de filmer Cuba en noir et blanc. C'est vraiment un choix. Et c'est vrai que la couleur à Cuba, c'est vrai que parfois, on est au service de la photographie ou de ce qu'on filme. Et la couleur nous appelle et est essentielle.
Absolument, absolument. Parfois, c'est inévitable.
Et donc, pour la Provence, vous photographiez aussi la Provence en noir et blanc, parfois ?
Et ça m'est arrivé, mais bizarrement, en Provence, j'ai travaillé beaucoup plus les paysages et normalement, il travaille beaucoup plus les gens. Et on dit toujours alors qu'en couleur, on photographie la personne, et en noir et blanc, on photographie l'âme. Et donc, j'ai des photos de la Provence en noir et blanc, mais c'est pas des photos couleur transformées en noir et blanc. C'est drôle, mais les mondes, parfois on les voit en noir et blanc, parfois on les voit en couleur. Donc il y en a des photos de la Provence en noir et blanc, mais pas ici cette fois-là.
Vous êtes plutôt dans la photo, je dirais presque humaniste, sociale. Quel a été votre parcours ? Vous êtes espagnol ? Vous êtes installé en Provence depuis combien de temps ?
Depuis 2002. Donc ça fait déjà au moins 2 ans. Je suis très mauvais en calcul. Non, j'ai commencé la photo quand j'étais jeune. J'ai 57 piges, donc ça, de l'eau est passée sous les ponts. Et j'ai commencé comme photographe en zone de conflit. J'ai commencé en Bosnie, pour vous dire. Et puis quelques années après, quelques péripéties après, j'étais professeur à Sciences Po Paris. J'ai travaillé pour l'OTAN. J'ai travaillé un peu partout. Rien avec la photo. Et en revenant vers cette région, je me suis dit qu'il fallait repartir. Et donc j'ai créé ma micro-nano-entreprise de photographie humanitaire pour essayer de donner un coup de main à des gens qui sont des endroits un peu moins privilégiés qu'ici.
Alors sur quel projet, par exemple, travaillez-vous actuellement ? Où allez-vous travailler ?
Actuellement, j'ai travaillé surtout avec le peuple berbère dans les Hauts-Atlas, que c'est des gens qui sont en train de subir les changements climatiques en pleine tronche et qui ne se plaignaient pas, mais meurent petit à petit. Autrement, je travaille un peu avec le Honduras pour des écoles et des garderies qui sont situées en territoire des narcotrafiquants. Donc c'est pas compliqué, la photo, n'importe qui peut la faire. La question, c'est sortir vivant avec, puis un peu dans certains pays de l'Afrique.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Oui, tout le monde peut faire une photo, mais vous avez... Alors, je vous dis ça parce que je vous ai découvert il y a peut-être un an et demi lors d'une exposition que vous avez fait dans la région. C'était plutôt des portraits, mais pas que, c'était du noir et blanc, un tirage argentique. Et vraiment, vous avez non seulement un œil, beaucoup de talent, mais ça c'est ce que je pense personnellement, et une sensibilité, c'est assez qui m'a touché.
En fait, non. non, en fait, moi mes photos des personnes... C'est pas la photo qui compte, c'est la personne. Alors, moi, je m'en fiche royalement. Et mon objectif, quand je travaille avec une personne, et je suis avec une personne, je ne travaille pas avec une personne, c'est de ne pas exister. Quand la photo sera finie, je n'ai pas existé, je n'étais pas là. Tous les gens que j'ai rencontrés pour faire des photos, je les connais bien, je connais leur vie, j'ai pleuré avec. Et parfois, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens et je n'ai jamais pris une photo. Parce que c'était soit ils ne voulaient pas, soit ils voulaient, mais c'était une forme d'invasion d'une histoire, d'une privacité. Et donc, c'est un drôle de démarche.
Parlez-nous de la... Pour les auditeurs de Fréquence Mistral, alors, ce n'est pas une photo qui se trouve là dans le musée pour cette exposition, mais d'une photo d'une commerçante, d'une vieille dame en Espagne. Racontez-nous, et j'ai vu la photo, elle est assez incroyable.
Si, c'est un drôle d'histoire, c'était qu'il y avait une commande sur l'Espagne vide, parce qu'une partie de l'Espagne est totalement vide, et il fallait trouver des personnes d'un certain âge qui se trouvaient en détresse. Donc finalement, la photo retenue, c'était une dame en larmes, en train de discuter avec moi. Au fond, il y a sa boutique, et c'est une personne qui tient une boutique, et ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de clients. Donc c'est drôle, mais c'est pas drôle quand on se retrouve avec elle. J'ai passé des jours et des jours avec, il y a pas une centaine de photos d'elle, mais l'objectif c'était pas l'esthétique de la photo, c'était pouvoir sortir une histoire, pouvoir sensibiliser un peu les gens à cette détresse et cette solitude et ce courage, parce que c'est des histoires de vie d'une autre époque. Et c'est une personne qui était donnée par sa famille aux commerçants parce qu'ils savaient pas assez de fric pour la nourrir, et donc elle était plus ou moins la bonne d'un commerce, et puis finalement les propriétaires sont morts et elle a hérité du commerce. C'est une histoire à tomber debout. Il y a de quoi écrire un livre avec seulement cette personne.
Oui, c'est l'humain qui vous intéresse en fait.
Absolument, absolument.
Qu'est-ce que vous pensez du métier de photographe actuellement ?
C'est une merveille et c'est tout à faire. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que la photo est morte, que non, c'est la photo peut-être traditionnelle est morte, mais on a tellement de choses à raconter, tellement de choses à inventer, tellement de nouvelles démarches, tellement d'histoires devant nous que ça fait que commencer.
Donc vous habitez en Provence,
Saint-Étule.
Pourquoi avez-vous choisi la Provence pour un photographe ? La lumière est importante. Qu'est-ce que
c'était un peu le hasard. C'était... Imaginez-vous que... C'est une longue histoire, donc je ne vais pas saouler vos auditeurs, mais j'ai travaillé à Paris, j'ai décidé de jeter à Sciences Po Paris, pour tout vous dire, professeur de politique internationale, et j'ai passé un diplôme en pâtisserie pour tenter l'aventure dans la France vraie. Et voilà, l'aventure ne s'est pas passée comme prévu. mais c'est pour ça que...
Bienvenue à l'imprévu.
Si, c'était comme prévu, je serais fonctionnaire et pas photographe, quoi. Donc c'était très bien. Quand les choses se passent mal, c'est génial. Parce qu'on arrive à trouver des...
Il faut savoir les transformer.
Ah si, des ressources extraordinaires. C'est fou. Mes meilleurs souvenirs, c'est... Plus on est en difficulté, mieux c'est.
Christy Londe, vous êtes une artiste peintre et cette année, vous avez une exposition au musée Artemisia. Qu'avez-vous choisi comme thème ?
Mais le thème, c'était seulement pour capturer le caractère de cueilleuse.
Voilà, les cueilleuses. Donc, il y a toute une exposition sur les cueilleuses de plantes de la région de Fort-Calquier.
Oui.
Comment se sont passées les séances ? Vous les avez rencontrées plusieurs fois ? Vous les avez peintes sur photo ?
Non, toutes les cueilleuses, il y avait un rendez-vous à commencement de janvier. Et toutes les cueilleuses, elles étaient ensemble. On parlait un petit peu et je prends les photos et après, ils partent. Ça, c'est la raison que toutes les cueilleuses sont avec les chapes, avec les pulls.
Et très habillées.
C'est pas dans les champs. Et ça, c'est la seule chose que je pense, ah mince, je voudrais avoir tous les portraits dans les champs avec presque toutes nous.
Oui, avec un peu de peau nue.
Oui, mais c'était très agréable. J'avais pas beaucoup de temps. J'habite à Saint-Michel-l'Observatoire. Pendant
Je ne savais pas, je pensais que vous habitiez là, en Suède.
Ah non, je suis locale, maintenant.
Ça y est, enfin.
Jamais locale.
Bienvenue dans la région depuis 3 ans.
Oui, je suis des États-Unis avant.
Pourquoi avez-vous choisi notre région ?
Ma belle-mère est de Valensole, juste à côté. Ma fille, elle attend l'école internationale. Et on a cherché une maison autour de l'école et on a trouvé Saint-Michel.
La nature dans votre travail de peinture est très présente. Il y a beaucoup de nature. Vous aimez peindre la nature ?
J'adore la nature, mais la chose préférée de connaître tous les cueilleurs, c'est de peut-être je peux aller avec tous les cueilleurs dans les montagnes autour d'ici parce que ça, j'adore promener les fleurs, faire le jardin. Je dis à une autre personne que c'est rigolo parce que je peins tous les cueilleurs, cueilleuses. Et maintenant, je ne connais rien de ces cueilleuses, pas trop. Seulement quelques minutes. Et maintenant, mais dans ma tête, sont mes amis déjà. Et je voudrais faire toutes les choses avec eux.
Vous êtes contente d'exposer ici au musée ?
Oh, je suis très ravie d'être ici. Je trouve que c'était un espace très joli. Et je suis fière d'être une part de ce projet nouveau.
Je m'appelle Mathieu Desjardins, je suis producteur de fruits et légumes bio et je travaille aussi avec Jérôme Reynaud qui est producteur d'huile d'olive et de miel et je travaille avec lui aussi pour faire mon miel. Avec mes fruits et légumes, je les lyophilise, donc c'est une méthode de déshydratation. En fait, je vais sublimer les fruits et légumes, soit en fait on fait par évaporation, soit par sublimation. Et moi j'utilise la sublimation. En fait ça permet de garder tous les arômes du fruit. Ça permet une conservation de plus de 15 ans. Ça permet aussi d'avoir une perte en poids qui est considérable. Parce qu'on a une banane par exemple qui va peser je prends la banane même si je suis pas producteur, mais c'est un exemple qui est assez flagrant. Elle va peser par exemple 200 grammes. Et ben à la fin elle va peser plus que 20 grammes.
Où les auditeurs de Fréquence Mistral peuvent trouver vos produits ?
Ils peuvent les retrouver sur le site internet Les Jardins de Prabelon. Vous avez sur le catalogue tout ce qu'on fait, vous avez en boutique tout ce qui est en stock. Et alors la boutique, elle se trouve sur site, donc à l'URS, mais vous pouvez aussi faire des commandes. Vous pouvez aussi, on est au musée des saveurs et senteurs. On est également à Biocop de la Brianne, également à Univers Paysan.
Donc aujourd'hui, participer au lancement de la saison 2026 était important pour vous.
Je suis très content d'être là.
C'est parti pour une dégustation.
Oui. Alors, qu'est-ce que je vous fais déguster?
Je vous fais confiance.
Ok, très bien. Alors, je vous conseille de commencer par la banane parce que c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, c'est de plus léger en goût. Alors, la banane, je suis pas producteur, mais j'ai fait la banane parce que il y avait une demande auprès des randonneurs parce qu'ils voulaient manger une banane en rando. Mais la banane, ça pèse un petit poids et surtout, ça s'écrase au fond du sac. Là, vous avez plus cet inconvénient. Et si vous mangez pas toute votre banane, vous pouvez la jeter au compost le soir.
Déjà, c'est léger.
Ouais, tout à fait.
Très léger. Ouais. Ça fond vraiment en bouche. Ouais. Et on a vraiment le goût de la banane, mais sans addictif. On sent vraiment le fruit.
C'est ça. En fait, on rajoute rien du tout. C'est que du fruit, 100%. On va avoir un côté hyper croquant parce que quand on déshydrate, souvent, en fait, ça réduit en taille. Et ça, c'est ce qui se passe, parce qu'en fait, les cellules gorgées d'eau, elles s'écrasent parce qu'on a enlevé l'eau. Et comme nous, en fait, on congèle le fruit et légumes pour le lyophiliser, et ben en fait la structure moléculaire elle peut pas bouger et ça fait que les cellules qui étaient gorgées d'eau sont remplies d'air et ça donne ce côté hyper croquant. En fait si on mange une banane, enfin une pomme par exemple fraîche ou lyophilisée, tous les nutriments, tous les arômes, tout y est. Voilà, à 95% près, on a une toute petite perte. Et aussi, on va avoir une perte en poids qui est considérable. Et le goût va être hyper augmenté parce que c'est comme si on prenait un sirop mais qu'on rajoutait pas l'eau. Parce que moi, j'ai enlevé l'eau avant et donc on a vraiment tout le goût qui vient.
Alors ça pourrait être pour des enfants qui n'aiment pas la banane, pour nos enfants, un petit paquet où on met diverses choses comme ça.
Ouais.
Au niveau nutritionnel, c'est parfait, ça fait des petits bonbons naturels.
Et c'est hyper pratique parce que par exemple, si on veut donner autre chose que des bonbons à nos enfants, et ben on peut, plutôt que de leur mettre des fraises dans le sac à dos qui vont s'écraser et on a une confiture à la fin, là en fait on va leur mettre des fraises lyophilisées dans le sac et ils vont manger des fruits au goûter, mais c'est des fruits bio, locales qui sont en plus qui sont pas coulants, qui vont pas couler sur les mains. Donc la pomme c'est moi qui la produis et là c'est un terrain qui est à Pierrefitte.
Petite frite d'apéritif, c'est génial.
C'est pour que ça soit un peu sympa à grignoter comme ça.
Et on peut justement le mettre à l'apéritif.
Ouais, exactement. Alors ce qu'il faut, c'est important, c'est la lyophilisation, ce qu'elle aime pas, c'est la lumière, parce qu'en fait elle va perdre en couleur et en vitamines. Et elle va pas aimer l'humidité, parce qu'en fait elle va perdre son côté croquant, elle va se réhydrater. Mais elle est toujours comestible, aucun problème.
Combien de temps à partir du moment où on en achète? Combien de temps vous conseillez à vos clients de les conserver? Combien de temps?
Alors, comme il n'y a plus d'eau du tout, en fait, rien ne peut se développer. Les champignons, les bactéries, les virus, tout ça ne peut pas se développer. Ce qui fait qu'en fait, on estime en moyenne 15 ans.
C'est incroyable. Venez, madame.
Oui, bonsoir. Faites-moi déguster.
Alors, c'est les fruits et légumes lyophilisés. Pommes. Alors c'est de la golden là, après on va avoir un mélange de tomates cerises, du jardin, après on a de la banane et après on a de la poire.
Bien d'abord tomates cerises s'il vous plaît.
Parfait.
Elles sont délicieuses, c'est vous qui êtes producteur, on a ces tomates cerises.
C'est moi qui est producteur, voilà. Je produis sur place à l'URS, là j'ai déjà fait les semis, ils poussent, ça y est. L'huile d'olive et du miel de Jérôme Reynaud.
Vous venez goûter madame l'huile d'olive?
Oui, je veux bien goûter l'huile. C'est une douceur.
Ouais, elles sont bien.
C'est très bon.
Ouais, elles sont bien.
Pas d'acidité?
Quasi pas d'acidité, c'est vraiment doux. Assis en fond de bouche un peu, mais vraiment c'est très rond, c'est très doux.
Et après, je vais avoir du miel d'acacia. Donc là, on amène nos ruches jusqu'à Mâcon. Donc en fait, on transhume nos ruches. Et ça a l'avantage en fait qu'on est sûr que la floraison va arriver et on peut avoir un miel qui est vraiment de qualité. On est sûr que c'est la fleur d'acacia qu'il y aura dans notre miel.
Donc vous proposez le miel d'acacia et puis...
Et alors là, je vais avoir que du miel d'acacia en dégustation.
Très bien, sinon sur le site.
Alors, mais sinon il va y avoir de mémoire lavande montagne, il va y avoir garrigue, il va y avoir châtaigne, il va y avoir ronce, romarin.
Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de votre site?
Ouais. Alors, le mien, c'est Les Jardins de Prabelon. Donc ça, c'est le site internet et le nom de la ferme. Et après, le miel et l'huile d'olive, c'est Jérôme Reynaud.